je vous demande de prier particulièrement ces jours-ci l'Esprit Saint, la Vierge Marie et Saint Joseph, puisque Saint Joseph s'était tu pendant sa retraite, vous savez, pendant la retraite que nous l'avons fait. Depuis l'anniversaire de Marthe, il y a quand même des liens entre Saint Joseph et Marthe. Hein. Vous savez bien qu'il y a eu un coup de téléphone curieux qui répondait à une lettre d'il y a 3 mois. Non, c'est quand même assez curieux, ça. Une lettre qui était perdue. Et c'est pour ça qu'on a fait une petite expédition aujourd'hui pour voir s'il y avait quelque chose à regarder de ce côté-là. On n'a fait que regarder. Après, il faut voir si les propriétaires, dans le cas ce sont des religieuses de la sagesse, sont des saintes filles. Oui, parce que les religieuses, ordinairement, hein, ont une générosité plus grande que les religieux, vous voyez. Et donc, regardent plus que les biens qu'elles ont, ce soit uniquement pour la gloire du Père et la gloire du Christ. Alors les religieuses de la sagesse, puisque ça leur appartient, il faut prier le Saint-Esprit pour que, de fait, on puisse comprendre si c'est bien cela que Dieu veut, que ça se réalise de cette manière. Et puis il y a l'évêque. Alors là, il faut demander aussi au Saint-Esprit. Et comme c'est un grand ami d'un ami, vous comprenez, il y a beaucoup de chance aussi. Parce que je crois que parmi toutes les choses qu'on nous a présentées, ça semble être vraiment celle que le Seigneur nous réservait, celle que la Vierge Marie nous réservait. C'est consacré à la Vierge Marie, du reste, comme beaucoup de choses. Surtout quand il s'agit de religieuses de la sagesse, qui sont donc d'une certaine manière nos sœurs, n'est-ce pas ? Alors priez pour ça, parce que ça va se décider rapidement, sûrement, même très rapidement. Ça doit se décider rapidement, parce qu'il s'agit de préparer cela pour le mois d'octobre, vous comprenez ? Il y a toujours hein, des choses à remettre en place, parce que c'est jamais pensé d'avance pour un couvent d'études ou pour un noviciat, c'est quand même assez différent. Alors je vous demande de prier Marthe très fort, puisque c'est elle qui semble bien avoir indiqué cela. Si vous voulez, nous allons continuer à réfléchir dans la lumière du mystère de Marie. Je rappelle, pour que vous compreniez bien, ce cheminement que nous faisons à travers les mystères de Marie pour découvrir dans l'esprit de la vie monastique ce que l'Esprit Saint a mis comme un trésor dans le cœur de Marie. Vatican II nous demande de regarder Marie pour notre vie chrétienne et de comprendre que Marie est le modèle de notre vie chrétienne. Je crois que nous pouvons, nous, en nous mettant dans la même ligne, essayer de comprendre comment Marie doit être la source et le modèle de toute reprise de consécration totale à Dieu. C'était la grande intuition de Marthe, vous savez bien. Et si Marthe nous a dit « Vous faites ce que nous ne pouvons pas faire », soyons fidèles à ce qu'elle nous a dit. C'est-à-dire d'aller le plus loin possible dans ce secret de Marie. La manière dont Marie a vécu sa consécration à Dieu. Je crois que c'est cela que nous devons lui demander constamment, pour que nous puissions entrer pleinement dans cet esprit de la vie monastique. Marie est au-delà d'une certaine manière de la vie monastique, vous comprenez bien. Elle a vécu une vie monastique très particulière. Hein? C'est-à-dire, elle a vécu une vie monastique en emmenant au désert Joseph. C'est comme ça qu'elle a mené une vie monastique. Parce que dès qu'on s'approche de Marie, Marie nous emmène derrière elle, vous savez bien. Et elle nous fait vivre son secret. Et elle nous fait vivre ce que Dieu lui a demandé de vivre. C'est ce qu'elle a fait pour Joseph. Elle avait mené une vie monastique très étonnante. Puisque de fait, il y a eu toute cette vie de famille. Là, peut-être que Marie nous faisait comprendre que la vie au désert des prophètes devait être reprise d'une manière un peu particulière dans la Nouvelle Alliance. Et que ça devait être repris à travers le grand mystère de la charité fraternelle. Marie est l'aurore de la vie évangélique. Et donc, en elle, l'Esprit Saint a voulu que tout ce que Jésus proclamera soit pleinement vécu, mais soit pleinement vécu selon une modalité qui reste très secrète. Jésus a proclamé d'une façon très forte, et c'est toujours cette proclamation du Christ que nous devons recevoir dans notre cœur, que l'amour du prochain et l'amour du Père ne faisaient qu'un. Vous savez bien, c'est là où on touche ce qu'il y a de tout à fait nouveau par rapport à l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il était dit qu'on devait aimer Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son âme. Il était dit qu'on devait aimer le prochain, c'est bien évident. Mais il n'était pas dit que ces deux amours ne faisaient qu'un. Et c'est cela, je crois profondément, qui donne à toute la vie chrétienne son caractère propre. Ceci est unique. Regardez toutes les autres religions. Regardez toutes les autres révélations. Il y a quelque chose d'unique qui est justement ce que Jésus nous transmet comme fils bien-aimé. Il n'y avait que le fils bien-aimé qui pouvait dire ça. C'est la révélation propre du fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Le début de l'Épître aux Hébreux. C'est important de voir ce que Jésus seul pouvait nous révéler. Ce qu'un prophète ne pouvait pas dire. Parce que quand il s'agit de l'amour, il faut le vivre. On ne peut pas prophétiser l'amour sans le vivre. Et donc on ne peut pas prophétiser, proclamer ce qui caractérise la Nouvelle Alliance, l'amour à l'égard du Père et l'amour à l'égard du prochain, dans cette unité substantielle, sans que ce soit pleinement vécu. Et ça ne peut être vécu que dans le Fils bien-aimé. Autrement, on dirait tout simplement, mais c'est parce que c'est une créature qui aime Dieu, alors c'est pour ça qu'elle dit ça. Alors elle ramène Dieu à la créature, et donc elle ne comprend pas l'absolu de l'adoration. Et alors on dirait que c'est l'immanence qui, à ce moment-là, diminue la transcendance. Et tout ce qu'on pourrait dire comme objection, parce que c'est vrai d'une certaine manière que la transcendance que nous découvrons dans l'adoration fait comprendre que notre relation à l'égard de Dieu est unique, notre relation d'adoration est unique, et voilà que notre relation d'amour est substantiellement la même. Mais c'est invraisemblable. Seul le Fils bien-aimé pouvait le dire. Seul le Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Et c'est peut-être pour cela qu'il nous est affirmé que le Père a mis en lui toutes ses complaisances pour que nous comprenions que le lien entre Jésus et le Père est un lien d'un absolu tel qu'il ne peut pas aller plus loin. Les théologiens disent que l'amour du cœur du Christ pour le Père est infini. Il n'a pas de limite. C'est un abîme infini d'amour dans le cœur humain du Christ. C'est pour ça que la dernière révélation, c'est la blessure du cœur. C'est pour nous faire comprendre que la parole ne peut pas exprimer un absolu d'amour que seul un geste peut exprimer. Et seule la blessure du cœur, qui est une blessure mortelle, peut exprimer l'absolu de l'amour qui existe entre le Père et le Fils, qui est un amour substantiel au-delà de la mort. Seul un amour substantiel et victorieux de la mort. Et c'est cet amour substantiel qui existe entre le Fils bien-aimé et le Père qui est victorieux de la mort. Et la blessure du cœur de Jésus nous exprime ça, nous révèle cela, nous révèle cet absolu de cet amour substantiel qui existe entre le Fils bien-aimé et le Père. Et parce que cet amour substantiel est infini, Jésus seul pouvait dire que l'amour à l'égard du prochain et l'amour à l'égard de son Père étaient le même. C'est fou, du reste, quand on voit la différence entre Dieu et la créature, quand on comprend cette différence, quand on la vit dans l'adoration. Et Jésus vivait dans l'adoration, Jésus adore le Père. Il l'adore comme aucune créature ne l'a adoré. Il l'adorait avec une profondeur unique. Parce qu'il a le sens de la transcendance du Père comme personne d'autre ne l'a. Et voilà que celui qui est l'adorateur par excellence, en esprit et en vérité, celui qui adore le Père comme aucune autre créature ne l'a adoré, celui-là nous fait comprendre que l'amour qu'il a pour le Père, cet amour qui enveloppe son adoration, cet amour qui porte son adoration, cet amour qui va plus loin que son adoration, c'est sûr. L'adoration relève de sa vertu de religion. Et son amour pour le Père relève directement de sa grâce et de la vertu théologale de charité. Et donc, son amour pour le Père va infiniment plus loin. Il porte son adoration. Et c'est pour ça qu'il peut nous dire que l'amour qu'il a pour son Père et l'amour qu'il a pour nous, c'est le même. Le fruit est différent, vous voyez ? Le fruit de son amour pour le Père, c'est son adoration. Et le fruit de l'amour qu'il a pour nous, c'est la miséricorde. C'est pour ça qu'il faut mettre en parallèle toujours dans le cœur de Jésus son adoration et sa miséricorde. Puisque ce sont les deux fruits caractéristiques de son amour pour le Père et de son amour pour nous. Cet amour infini qu'il a pour le Père se traduit dans son adoration. Et son adoration se traduira dans l'holocauste de la croix. C'est l'holocauste de la croix qui traduit son adoration. Parce que son adoration est tellement parfaite qu'il faut que toute son humanité soit brûlée. Il faut que toute son humanité soit offerte. Et soit offerte dans cet holocauste d'amour. Et il faut que cela se traduise à travers la blessure du cœur. Et son amour pour nous est infini et se traduit dans le mystère de la rédemption, dans le mystère de la miséricorde, dans le mystère du pardon. Le pardon du Christ à notre égard traduit son amour pour nous. Et c'est pour ça que ce pardon est infini. Qu'il nous pardonne infiniment. Et c'est bien ce qu'il exprime, hein, quand on lui demande s'il y a des limites dans le pardon. Jésus nous fait comprendre qu'il n'y a pas de limite dans le pardon. Parce que ce pardon est le fruit de cet amour infini qui nous lie à lui. C'est bien là où nous découvrons ce qu'il y a d'unique dans la Nouvelle Alliance. L'absolu de la Nouvelle Alliance. Et je vous ai déjà dit, je le répète, parce que c'est important, aujourd'hui, quand vous voyez certains qui hésitent en disant après tout pourquoi être chrétien plutôt que telle ou telle religion, il faut toujours revenir à cela. La religion chrétienne est la seule où le cœur de Dieu et le cœur de l'homme ne font qu'un. La religion chrétienne est la seule où l'amour à l'égard du Père et l'amour du prochain sont un. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin dans l'ordre de la révélation. Puisqu'on touche l'absolu de l'amour du Fils bien-aimé avec le Père, et cet amour absolu du Fils bien-aimé à l'égard du Père, c'est le même pour nous. C'est le même pour chacun d'entre nous. Le même amour dont Jésus nous aime, qu'il aime le Père. Là, on touche ce qu'il y a d'unique dans notre vie chrétienne. Il faut y revenir toujours dans l'oraison, vous voyez, parce qu'il faut le vivre de l'intérieur, cela. Je dirais, c'est cela dont on doit vivre avant tout dans l'oraison. Vive flamme d'amour. Et c'est bien ce que Saint Jean de la Croix nous fait comprendre. Vive flamme d'amour, c'est vivre de cette flamme d'amour, de cet amour que le Père communique à son Fils bien-aimé, que le Fils donne à son Père. Ils sont unis dans cette flamme d'amour qu'est l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils. Et nous sommes nous-mêmes liés dans cette flamme d'amour, dans l'Esprit Saint, ce qui nous permet de dire à Jésus en toute vérité qu'il est notre bien-aimé, comme il est le bien-aimé du Père. Et nous pouvons le dire avec la même qualité d'amour, et nous devons essayer de le dire avec la même ferveur d'amour. Nous y tendons, nous, hein, mais nous savons que l'Esprit Saint, qui est le même, dans la très sainte Trinité, il est celui qui nous introduit. C'est le même esprit. C'est donc avec la même ferveur, voyez, en nous elle est participée, tandis que dans la très sainte Trinité elle est unique. Mais c'est la même ferveur. C'est le même esprit. Eh bien, ce grand mystère, qui est notre mystère, et que le mystère de l'Eucharistie, chaque jour, nous rappelle. Et non seulement nous le rappelle, mais le réalise pour nous, et pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que je dis, dans l'oraison, c'est cela dont nous devons vivre, avant tout, et plus que tout. Il faut tout le temps y revenir, parce qu'à travers l'Eucharistie, nous comprenons que c'est cela qui est le secret de toute notre vie. C'est cela qui nous permet d'avoir une lumière sur tout le reste. Ce mystère, Marie le vit comme l'aurore. Et c'est très beau de le voir vécu dans le cœur de Marie comme l'aurore. Et elle le vit comme le crépuscule. Que Marie est toujours celle qui devance et celle qui achève. Alors, il faut le voir, l'aurore et le crépuscule, hein, du mystère de la Nouvelle Alliance. Elle le vit comme aurore dans le mystère de la Visitation. Elle le vit comme le crépuscule au pied de la croix pour Jean. Et ces deux aspects, c'est très rare que dans la vie de la Très Sainte Vierge, on voit ces deux aspects, mystère de joie, mystère de douleur, et mystère de gloire. C'est ça qui fait l'unité de tous les mystères de Marie. Et donc, c'est cela qu'elle veut nous communiquer. Toute notre vie de consacrée à Dieu, tous nos efforts de vie monastique, tous nos efforts de contemplatif, c'est pour vivre ce mystère. Pas pour autre chose, c'est pour vivre ce mystère. C'est que cette flamme d'amour qui a été donnée par le Père à son Fils bien-aimé, qui est donnée au Fils à son Père. Cette flamme d'amour qui est l'Esprit Saint dans notre cœur, qui nous unit d'une manière si forte à Jésus, et qui nous unit entre nous avec le même amour, la même intensité d'amour, c'est cela dont nous devons essayer de vivre dans notre raison. Le plus possible, dans la foi, dans l'espérance et dans cette flamme d'amour. Et Marie nous aide à le vivre. Elle est l'aurore. C'est magnifique l'aurore. Vous voyez, ça c'est le noviciat. L'aurore, c'est notre vie terrestre. Toute notre vie terrestre, c'est l'aurore de la vie de gloire. Hein. C'est en ce sens-là qu'on est toujours des novices du Saint-Esprit et qu'on est de plus en plus des novices du Saint-Esprit. Et que toute notre vie doit être cette préparation à cette vie qu'on vivra un jour, éternellement. Ça vaut la peine de consacrer toute sa vie à une préparation d'une vie éternelle. Ça, être intelligent. C'est de comprendre que, de fait, toutes nos forces doivent être ordonnées à cela. Un jour, nous en vivrons dans la lumière, dans la gloire. Alors nous voulons anticiper et tout notre effort de vie monastique, tout ce que représente comme effort de vie silencieuse, de vie de travail, de vie de serviteur caché, tous nos efforts d'humilité, pauvreté, tous nos efforts de limpidité du cœur, tous nos efforts d'obéissance, c'est pour ça. Et uniquement pour ça. Ah, si on le voyait, on aurait un de ces courages extraordinaires à vivre pleinement de cet esprit de virginité, de cet esprit de pauvreté, de cet esprit d'obéissance, pour que l'Esprit Saint ne soit pas à l'étroit en nous. Parce que c'est ce que réalise l'esprit d'obéissance, l'esprit de virginité, l'esprit de pauvreté. Ça renverse toutes nos limites. Ça fait éclater nos limites. Nos limites, c'est notre égoïsme. Notre égoïsme, notre vanité et notre orgueil. Et alors ça fait éclater tout ça pour que l'Esprit Saint soit à l'aise. Il faut lui demander de temps en temps au Saint-Esprit s'il est à l'aise chez nous. Demandez ça à Marie. Demandez à la Très Sainte Vierge de le demander au Saint-Esprit. C'est un excellent examen de conscience, vous voyez. Plutôt que de s'interroger pour savoir est-ce que j'étais paresseux. Demandez à la Vierge Marie de vous demander si le Saint-Esprit a été à l'aise. Si vous n'avez pas trop donné des petits coups de chiquenaude sur les paupières de la colombe. À cause de l'égoïsme, tout simplement. À cause de la grosse vanité. Ou à cause de l'orgueil subtil. Il faut souvent demander ça à la Sainte Vierge. Vous voyez, l'examen de conscience de midi, il est court. Parce que chez les Sulpiciens, un quart d'heure d'examen de conscience à midi, hein, c'était comme ça qu'on faisait ça en plein milieu de la journée, un quart d'heure. Vous, c'est de l'Angélus au réfectoire. Ah, ne l'oubliez pas, hein, parce qu'il ne faut pas être distrait. Alors c'est de l'Angélus au réfectoire. Demandez à la Sainte Vierge tout simplement, mais tous les jours, demandez à la Sainte Vierge, est-ce que ça va bien ? Est-ce que le Saint-Esprit est content ? C'est un petit sourire à la Sainte Vierge, après tout. C'est bien, c'est ce vieux curé belge qui disait ça. La Sainte Vierge ne demandait qu'une seule chose à ses enfants, un petit sourire tous les matins quand ils se lèvent. Quand ils sont fatigués, ils sont de mauvaise humeur de se lever. Alors faire un petit sourire à la Vierge Marie. Alors je crois que vous pouvez le faire aussi à midi. N'est-ce pas ? Parce que de la chapelle au réfectoire, ça fait quelques minutes. Alors on fait un petit sourire à la Vierge Marie pour lui demander si le Saint-Esprit est content. Il faut s'éveiller à cela, enlever toutes les limites. Et la Sainte Vierge alors nous fera comprendre et nous fera vivre de cette charité fraternelle. Mais nous y revenons pour la troisième fois. Et il ne sera pas seulement maintenant, hein, parce que quand on reviendra au mystère de la croix, on y reviendra encore. Mais c'est tellement important pour nous. Je dis bien le mystère de la charité fraternelle, qui va s'incarner pour chacun d'entre nous d'une façon différente dans notre vie commune. Notre vie commune n'est pas un absolu. C'est pour ça que ça peut varier l'heure des récréations et l'intensité des récréations. Ça peut varier, il ne faut pas mettre d'absolu là-dedans. Mais le mystère de la charité fraternelle est un absolu comme l'amour que nous avons pour le Christ, comme l'absolu que nous avons pour le Père, comme l'absolu de l'Esprit Saint. Il faut qu'il y ait en nous cette soif d'aimer profondément nos frères, de nous aimer, pour que nous donnions ce témoignage. Ce n'est pas à cause de ça qu'on le fait. On le fait parce que Jésus nous le demande. Et que c'est le bon plaisir de l'Esprit Saint. Nous aimer en nous choisissant, et je dis bien en nous choisissant mutuellement les uns les autres. Pas la peine de le dire, ça se fait dans le silence. Et vis-à-vis de ceux avec qui on a un peu plus de peine, ça doit se faire avec encore plus de force. Et puis en suppliant la Très Sainte Vierge d'être là. Mais il faut arriver à s'aimer dans cet absolu de l'amour. Qu'on ne puisse plus se séparer sans sentir qu'il y a une brisure, quelque chose d'anormal. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous soude. Et c'est l'Esprit Saint qui fait ce lien. Dans notre monde d'aujourd'hui, je suis persuadé que c'est une des exigences très très profondes de la Très Sainte Vierge pour la communauté Saint-Jean. Marie veut qu'il y ait cette très très grande unité d'amour, tout en respectant la très grande diversité, tout en respectant que nous ne pédalons pas du même pas. Il faut respecter cela, qu'on a chacun ses petites ornières ou ses grandes ornières, qu'on a chacun ses opinions. C'est normal qu'on ait ça, c'est impossible autrement. L'unité n'est pas là. L'unité, elle est dans le cœur de Marie. Et c'est le cœur de Marie qui fait l'unité. Alors il faut comprendre ce mystère de la visitation qui doit être vécu très intensément. Pas seulement quand nous récitons la dizaine de chapelets sur la visitation, mais qui doit être vécu tous les jours. S'il y a cette grande charité entre nous, cet amour très intense, on se choisit dans la lumière du Christ et de Marie. qu'on se choisit dans la joie, qu'on se supporte dans la souffrance. Parce que c'est quelquefois ceux qui nous ont procuré le plus de joie qui vont être ensuite pour nous des souffrances les plus grandes. Ça peut arriver. Ça n'a pas d'importance. L'amour est au-delà de la joie et de la souffrance. Il faut que nous vivions ça dans le cœur de Marie et que nous demandions à Marie de nous apprendre à nous choisir, à nous aimer. Je vous l'ai déjà dit, quand nous chantons le Salve Regina, nous regardons chacun de nos frères dans le regard de Marie. Et nous les aimons tous dans le regard de Marie. Et nous demandons pardon. Ceci fait partie du mystère de la charité fraternelle, voyez. Ce n'est pas la vie commune, c'est le mystère de la charité fraternelle, de se demander pardon les uns les autres, dans le silence. On n'a pas encore institué que pendant le Salve Regina, chacun qui a quelque chose contre son frère aille le dire. Vous voyez, ce serait gênant parce qu'il y aurait... du cœur de Marie. Mais il faudrait qu'on soit prêt à le faire, voyez. In preparatio animi, hein, comme disent les théologiens. C'est-à-dire que notre cœur soit tellement dans cette unité de charité fraternelle, liquéfié, tout en gardant sa force dans la charité fraternelle, qu'on puisse. Mais oui, il y a eu une petite accrochage, ce n'est rien. On n'a pas le droit de s'endormir sans avoir demandé pardon. On n'a pas le droit de s'endormir sans avoir demandé pardon à son frère. C'est vrai, vous savez bien que plus la famille est forte, plus l'unité est grande, et plus par le fait même aussi, la vulnérabilité est grande et les écorchures sont plus profondes. On s'écorche bien moins quand on rencontre quelqu'un dans le métro, hein. Tandis que ici, où on s'aime, et où la Sainte Vierge veut cet amour, alors forcément, c'est plus douloureux. C'est normal, ça fait partie des exigences de la charité fraternelle. Alors il faut qu'on se pardonne. Jean Vanier dit, il le dit à sa manière de Jean Vanier, c'est pas un théologien, vous savez bien, mais Jean Vanier dit que le pardon, c'est le fondement de la vie commune. Alors, c'est pas très juste théologiquement, mais c'est très vrai pratiquement, vous voyez, il y a quelque chose de très juste, c'est que dès qu'on ne se pardonne plus, eh bien, il y a quelque chose qui ne va plus. Immédiatement. Des icebergs. On devient iceberg pour celui à qui on n'a pas pardonné. C'est pas tout à fait la liquéfaction. Mais c'est juste l'inverse. Alors il faut au contraire comprendre qu'on doit avoir vis-à-vis les uns des autres cette intensité d'amour très très grand et se pardonner. Encore une fois, il faut du temps quelquefois pour le manifester à l'extérieur. Je vous l'ai déjà dit. Il ne faut pas tout de suite traduire certaines choses que nous portons dedans nous-mêmes à l'extérieur, parce qu'on le ferait très maladroitement. Alors on peut l'écrire sur un petit papier. Encore faut-il le glisser en dessous de la porte au bon moment. N'est-ce pas, pas au juste moment où il sort, parce que ça n'irait pas. Non, mais au bon moment. Alors c'est ce qu'on racontait au seul choix. C'était très beau, du reste, c'était très beau ça. Les pardons entre les extrêmes au point de vue opinion théologique qui faisait que ce n'était pas toujours commode dans la récréation. Vous savez, quand on voyait des pères aussi éloignés que pouvaient être des pères qui vivaient au seul choix, sous le même toit, et on disait qu'alors à ce moment-là, c'était à minuit. Mais comme tout le monde prenait le rendez-vous à minuit, c'était quelquefois un peu dangereux. Tu vois, là, on mettait le papier en dessous de la porte. Tu sais combien, à ce moment-là, on se vous voyez, il y avait que les jésuites qui se tutoyaient. Alors c'était, vous savez combien je vous demande pardon, combien en face du Christ je vous demande pardon. Et c'était vrai. Et malgré la très grande diversité d'opinions théologiques, il y avait l'amour de charité fraternelle qui était victorieux. Et ça, c'est très beau. Et c'est très grand. Parce que les opinions théologiques, hein, c'est pas si commode que ça chez des théologiens de métier. N'est-ce pas? C'est pas si commode que ça. Et alors, de voir que la charité fraternelle dépasse, l'emporte. Et quelquefois, on ne peut que l'écrire sur un papier. Ça, on peut le faire. Et on doit le faire. Et on doit le faire, je ne dis pas tous les soirs, hein, mais au moins une fois par an. Vis-à-vis de ceux qui nous tentent un peu, vis-à-vis de ceux vis-à-vis de qui on a pu dire telle ou telle parole un peu dure, ça nous a échappé. Alors on doit réparer. Ça fait partie de la charité fraternelle et du pardon. Alors on ne peut pas le faire toujours, n'est-ce pas, d'une façon immédiate. Je comprends, c'est forcé. Parce que le vieil homme est encore trop dur. Alors, il est encore trop raboteux. C'est encore trop du silex. Mais il faut le demander à la Vierge Marie. Le grand mystère de la visitation. Marie qui se met au service d'Élisabeth. Pardonner, se mettre au service. Choisir. Aimer. La charité fraternelle, l'agapé, doit brûler notre cœur d'un feu divin qui nous permet d'être accueillants vis-à-vis de ceux qui ont besoin de nous, qui nous permet de nous donner pleinement et totalement à ceux que Dieu a mis proche de nous. Il faut que nous découvrions cela, vous voyez, les petits services spontanés. L'annonciation, la visitation, c'est un service spontané que Dieu a demandé à Marie. C'est vrai, à première vue, il n'y a aucun rapport entre le mystère de l'incarnation et qu'Élisabeth a besoin de Marie. Aucun rapport, aussi éloigné du ciel de la terre. Et pourtant, Dieu, dans sa providence, lie les deux. Et Dieu a voulu lier les deux. Et Dieu nous donne des signes, beaucoup plus que nous ne pensons, pour nous éveiller à la charité fraternelle. Je vous ai déjà dit, les signes, ce n'est pas pour nourrir notre foi contemplative se nourrit de la parole de Dieu et du don actuel que le Père nous fait de son Fils et du don actuel que le Fils nous fait de sa mère. La charité, notre contemplation se nourrit directement de ce don. Mais pour éclairer notre prudence, nous avons besoin de signes. Pour que notre prudence soit vraiment éclairée par le don de conseil, pour que notre prudence puisse être au point de départ d'initiative de la charité fraternelle dans la vie commune, pour que nous ayons certaines audaces dans la charité fraternelle. Alors il y a des petits signes qui nous sont donnés, et ces signes, nous devons les recevoir avec beaucoup d'amour. C'est notre prudence surnaturelle, n'est-ce pas, qui est au point de départ des initiatives des petits services ou des grands services dans la vie commune. Parce que toujours le service qui traduit la charité fraternelle, qui traduit notre miséricorde, tous ces services doivent être dans la lumière de la prudence, éclairée par la foi, transformée par l'amour. Et sous la mouvance de l'Esprit Saint, il faut demander au Saint-Esprit de nous apprendre à avoir ces initiatives d'amour, avoir un petit geste très simple et très aimant. L'autre en a besoin. Alors il faut évidemment que ça se fasse avec discrétion. Si c'est du Saint-Esprit, ça se fera avec discrétion. Si c'est de nous, pas toujours. Et c'est pour ça qu'il faut demander au Saint-Esprit qu'il y ait cette discrétion. Mais il faut qu'il y ait ces initiatives d'amour. Vous voyez, il ne faut pas que la vie commune, la règle de vie, notre règlement supprime nos initiatives de charité fraternelle. Surtout pas. La règle de vie, le règlement, c'est la justice qui règle notre vie. Il le faut, c'est absolument impossible autrement. Surtout quand on est nombreux. Et puis ça fait partie de l'obéissance. Mais il faut qu'il y ait cette surabondance. Il faut qu'il y ait ce bénévolat du Saint-Esprit, hein, comprenez bien, quelque chose de plus. C'est vrai, quand vous regardez Simon le Cyrénéen, c'est quelque chose de plus, ça ne faisait pas partie du règlement. Il avait travaillé toute la journée, et c'est quelque chose de plus, et c'est souvent ce qui arrive. C'est quand on fait quelque chose de plus, en surabondance. Alors évidemment, ce quelque chose de plus dépend de chacun, puisque certains doivent mettre tout leur effort pour le travail intellectuel quand le Seigneur le demande. Mais quand le Seigneur demande de faire un petit geste, et quelquefois, hein, dans le travail intellectuel, on peut faire du bénévolat, hein, et même souvent on en fait, c'est-à-dire qu'on aide son frère vis-à-vis de tel ou tel petit travail, plutôt que de dire « tant pis hein, », il va voir que c'est difficile, hein. Il vaut mieux qu'il comprenne dès le début. Non, il faut au contraire l'aider. Vous savez bien, la devise que d'un des professeurs du Solchoir, que je vous ai dit, qui n'est pas précisément la charité fraternelle, « j'en ai bavé, ils baveront ». Alors ça, c'est œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, c'est justement ce qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas faire ça. On doit au contraire aider. J'en ai bavé quand j'étais en première année. Oui, on m'a laissé tranquille là. J'ai rien compris pendant 6 mois. Eh bien, je vais aider les autres. Je vais les soutenir. Je vais essayer de mettre à leur disposition, dans la discrétion, dans l'obéissance. Tout ça doit se m'aimer avec une spontanéité. Vous savez qu'il y a deux manières d'obéir. On obéit en traînant un chaland. Vous voyez ce que c'est, hein? Et puis on obéit en dansant. C'est-à-dire on obéit avec une spontanéité merveilleuse, en faisant croire à tout le monde que c'est notre propre initiative. C'est merveilleux, ça. Et pourtant on obéit. Mais c'est notre initiative, puisque c'est l'initiative de ceux qui ont autorité auprès de nous. Et alors comme ils sont tout proches du Christ, c'est eux qui nous aident à avoir ces initiatives. Tandis que quand on obéit en traînant un chaland, toute la journée, vous voyez, à la fin, on a le dos rond. Alors ça ne va plus du tout, n'est-ce pas ? Et alors c'est quand même assez pénible. Hein, on voit très très bien que c'est dur. Que non, ce n'est pas la véritable obéissance filiale, aimante. Et alors la charité fraternelle ne passe plus. On est tout occupé uniquement à obéir. Et on n'est pas suffisamment donné. La charité fraternelle se fait dans la joie, dans la souffrance, se fait dans l'amour. Avec cette initiative, avec cette gratuité qui fait qu'on se donne. C'est nous-mêmes qui nous donnons jusqu'au bout. Sans rien garder. Initiative dans l'ordre du travail intellectuel pour aider ceux qui en ont besoin, initiative dans le travail manuel, initiative toute simple. Je crois que c'est très important qu'il y ait ces initiatives les uns à l'égard des autres, auprès de la Très Sainte Vierge. C'est Marie qui nous éduque dans la charité fraternelle. C'est Marie qui nous apprend à aimer notre frère. C'est Marie qui nous apprend à découvrir les signes. Il est très attentif à ces signes. C'est Marie qui nous apprend d'aller jusqu'au bout de la charité fraternelle. Voyez donc, hein, il y a des gestes de charité fraternelle qui sont dans l'obéissance, et il y a une modalité de la charité fraternelle qui est directement sous le souffle de l'Esprit-Saint et qui nous permet d'exercer cette charité fraternelle selon un mode de gratuité, de spontanéité, de douceur, de don de nous-mêmes, en faisant comprendre que ce petit geste que nous faisons n'est rien à côté de l'intensité de l'amour qui est dans notre cœur. Cette charité fraternelle qui est mutuelle, normalement la charité fraternelle est mutuelle, elle est réciproque. Quand on sourit à quelqu'un, il nous sourit, c'est normal. Quand on l'aide, on sait très bien que le lendemain il nous aidera. On ne l'aide pas pour ça, mais on sait bien qu'il le fera. Vous voyez, c'est mutuel ça. Parce qu'on ne veut jamais que ce soit uniquement lui qui fasse ça pour nous. Alors on essaiera de faire quelque chose de réciproque. Mais quand c'est pas réciproque, ça existe. Quand c'est pas réciproque, pas dans la vie commune c'est toujours réciproque, mais en dehors de la vie commune, vous voyez. Quand c'est pas réciproque, quand on voit un frère qui vraiment complètement iceberg, complètement. Alors on essaie, mais faire sourire un peu, puis ça réussit pas du tout. Alors on n'insiste pas, vous voyez, parce que c'est pas la peine d'insister. On va lui dire, est-ce que tu as donné ton petit sourire ce matin, la Vierge Marie? Non, il vaut mieux pas, parce que vous risqueriez à ce moment-là de... Non, il vaut mieux pas. Donc, faut pas insister. La discrétion de la Très Sainte Vierge. Alors, il faut comprendre que si notre frère ne nous répond pas, Jésus répond toujours. Et Marie aussi. Ça, c'est assez extraordinaire. Alors, entre frères, on comprend très bien que c'est pas grave. On respecte, parce qu'il faut du temps quelquefois pour quelqu'un pour se détendre. Il faut du temps. C'est vrai, ça, c'est le propre de la vie religieuse. Parce qu'on n'a pas beaucoup de détente, alors on va ordinairement jusqu'au bout, n'est-ce pas, on est très tendu, et là il faut du temps après pour se détendre, ordinairement. Alors, c'est pas étonnant que quand on est tendu et qu'on veut détendre un peu son frère, puis qu'on s'aperçoit qu'il répond pas, alors tant pis. On prie d'autant plus pour lui. Mais il faut bien se dire que dans la charité fraternelle, c'est Jésus qui est garant. C'est ça qui est très étonnant. Dans la charité fraternelle, c'est Jésus qui a donné le précepte. Et donc, il est le garant. Et c'est Marie qui l'a réalisé. Et Marie aussi est garante. Ça, c'est une chose très étonnante. Parce que Jésus nous demande d'aimer nos frères et de nous donner à eux. Et de nous donner à eux comme si entre nous il y avait une vraie amitié, un véritable amour d'amitié. Alors quelquefois, il faut bien se le dire, hein, c'est déjà vrai au point de vue humain, mais ça arrive encore bien plus au plan surnaturel. Hein. Nous faisons un effort héroïque, hein, vis-à-vis de quelqu'un qui nous a un peu blessé. Hein. Il nous a marché sur les pieds, il nous a répondu un peu durement. Alors on fait un effort héroïque pour recommencer le lendemain d'être gentil avec lui, d'être souriant, de lui dire qu'on l'aime et qu'on l'aime vraiment et qu'on est à sa disposition, puis on reçoit le même refus. Ça peut exister, ça. Ça se voit. pas seulement chez les dominicains, parce que j'ai beaucoup d'exemples à vous donner chez les dominicains, de vie commune, je pourrais vous en donner beaucoup, parce que quand on est attentif un peu à ce que c'est que la vie commune, et on doit être attentif à ce que c'est que la vie commune, on voit des choses très étonnantes. C'était un bon père maître qui disait, dans la vie religieuse, on verra tout. Et c'est très vrai, on voit les choses les plus merveilleuses au point de vue de la charité fraternelle, et je crois qu'il y a les plus grandes fleurs, les plus grandes... Et puis il y a aussi, en même temps, il faut bien se dire, puisque la vie commune est notre don à Dieu et notre vie contemplative intensifie notre sensibilité. Et donc, on verra des réactions, et puis le démon rôde autour. Et le démon sait très bien. Il faut bien croire, Rimmon est une forteresse pour le démon. C'est écrit, hein. Dans les enfers, Rimmon forteresse, attaquez ça. Et alors, il s'agit de voir combien le démon est là, aux aguets, dès qu'il le peut, pour faire perdre du temps, de nous mettre dans un climat d'angoisse, de mauvaise humeur, on a envie de tout renvoyer promener. C'est très vrai, ça. C'est le démon qui rôde autour. C'est une forteresse consacrée à la Très Sainte Vierge, mais en même temps, on sait très bien que c'est le lieu. Le démon est plus ici autour, vous savez, que dans beaucoup d'autres lieux. Parce que dans d'autres lieux, il n'a pas besoin. Il a des suppôts. Tandis qu'ici, il n'y en a pas beaucoup, quand même. Alors, par le fait même, il rôde lui-même, et il essaie par tous les moyens de faire glisser. Alors, c'est pas étonnant, que voulez-vous? C'est la lutte. La vie commune, c'est la lutte. C'est la lutte pour acquérir une charité fraternelle qui soit plus grande. Et c'est une très grande lutte. Parce que dès qu'on aime, on se désarme. Alors on se dirait, mais c'est merveilleux, on se désarme. Mais pas du tout, il faut vous armer tout en aimant la charité, tout en aimant votre frère. C'est pas commode. Il faut l'aimer, être complètement désarmé, être dans un état de douceur et de... Bienheureux les doux, bienheureux les miséricordieux, bienheureux les pacifiques. Il faut tout le temps être comme cela, désarmé, avec Marie. Puis en même temps, il y a la lutte. À l'intérieur même de la charité fraternelle, dans la vie commune. Il y a la lutte. Alors, il ne faut surtout pas se décourager. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que Jésus est garant de la charité fraternelle. Et chaque fois que notre frère ne répond pas, ou répond d'une manière telle que nous ne comprenons rien du tout, que ça peut arriver. Il y en a qui ont un langage particulier. Vous savez, il y a une diversité dans les langues, il y a une diversité dans le langage affectif et des gestes affectifs encore beaucoup plus grandes. Alors pour les uns, une manière de manifester qu'on est je te remercie beaucoup. Vous savez, on ruchonne, ça ne fait rien. C'est une manière très élégante de dire je t'aime beaucoup. Mais c'est bon, il faut comprendre. Au bout d'un certain temps, on comprend. Et on ne rigole pas plus, parce qu'on sait que c'est la seule manière pour lui de dire qu'il nous aime beaucoup. Alors, on est très très heureux. On aurait mieux aimé un langage, comme on dit, chinois poétique. Parce que j'avais à côté de moi, en revenant de Paris, quelqu'un qui avait le langage poétique chinois. Alors on voit très bien, il y a un langage poétique chinois, on voit très bien ce que c'est qu'un langage poétique. Alors, une douceur extraordinaire. On n'a jamais, devant un sujet, il faut surtout jamais directement aborder l'autre. N'est-ce pas ? Il faut l'envelopper, c'est le dire, les tournures merveilleuses. Il faut du temps pour ça, non? Alors quand on est en plein dans le travail, ce langage poétique chinois qui peut aller très bien avec certains, non pas du tout, la réponse n'est pas du tout la même chose. La réponse, elle est doublement occidentale, vous voyez. Alors à ce moment-là, c'est quelque chose de très, très, très... Et là, on ne comprend pas. Ça arrive, on ne comprend pas. T'es vrai, je ne comprends pas. Je vois pas du tout, j'ai essayé, impossible. Pourtant, je l'aime beaucoup. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, je ne comprends pas ses réactions. Ça peut très bien se faire, ça. Alors, il faut comprendre que c'est Jésus qui répond. Et ça, je crois très fort. Le sourire de Jésus à la place de celui de notre frère, le sourire de Marie, et c'est vrai ça. Jésus aime que nous nous répondions les uns les autres. Mais quand notre frère ne répond pas, ou que nous ne comprenons pas sa réponse, hein, il faut pas dire trop vite qu'il ne nous répond pas, mais que nous ne comprenons pas sa réponse, il faut comprendre que c'est Jésus qui nous répond pour nous aider à aller plus loin dans cette incarnation de la charité fraternelle, dans ce fait que la charité fraternelle doit prendre possession de notre langage, de nos gestes, de nos regards, de notre manière de nous servir les uns les autres, notre manière de nous devancer les uns les autres, notre manière de nous soutenir, de nous porter les uns les autres. C'est cette grande hymne à la charité que nous devons souvent relire de saint Paul, n'est-ce pas, qui nous montre la manière dont nous devons nous aimer les uns les autres. Être de plus en plus. Et c'est Jésus qui répond. Pour que jamais on se désespère et qu'on aille toujours plus loin. Dans un don véritable, dans un don plénier. Viens demander cela à la Vierge Marie. Il faut lui demander souvent, quand nous chantons le Salve Regina ensemble, demandons cela à Marie. Qu'elle permette qu'il y ait une ferveur de charité fraternelle, une intensité de charité fraternelle qui s'incarne de plus en plus entre nous et qui prenne possession de notre cœur, de notre sensibilité, de nos passions, pour qu'il y ait cette unité très très forte que Marie veut si grande.
Benedictus.
Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, par l'intercession du cœur douloureux et immaculé de Marie, vous bénisse et vous garde à jamais.
Amen.